Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons en ce début de semaine dans nos lectures en liberté et je vous propose de démarrer aujourd'hui la lecture d'un court roman d'un auteur un peu oublié, Joseph Delteil, Sur le fleuve Amour. À cheval devant l'océan Pacifique. Toute l'armée Semenov grouillait sur les quais de Nikolaïevsk. De maigres ostiaques rôdaient sans relâche autour du môle en brique en dévisageant de belles mongoles de miel allaitant des enfants jaunes. Un pope accroupi devant une borne déclamait des incantations. Des estafettes en pleurs passaient sur de petits chevaux de l'Oural. Les bolchevistes, vainqueurs à la Stambulaska, avaient jeté Semenov à la mer. Et on entendait déjà au loin, derrière Nikolaïevsk, les avant-gardes rouges faisant sauter à la dynamite les portes monumentales de la ville. En rade, le steamer russe Arthur VI, chargé de recueillir l'armée vaincue, chauffait à toute cheminée. Le régiment de femmes ostiaques de Ludmila Androff montait la garde devant le port. De 20 en 20 mètres, les hautes femmes en sentinelle grasse et la lance de cuivre au poing profilaient sur le fond d'eau leurs silhouettes décoratives en dolman sans soutaché de brandebourg jaune d'œuf. Ludmila parcourait les rangs en grand uniforme blanc, culotte de soie perle, bottes de botsklaf citron et casate de satin parsemée de fleurs de lotus. Elle portait sur ses cheveux blonds une sorte de casquette plate, drap et cuir à jugulaire de soie. Elle allait criant des commandements en dialecte du Nord et fumant des cigares des îles Philippines. Deux aides de camp mandchou la suivaient sur des pur-sangs. Par rafale, un clairon solitaire sonnait et ses éclats tombaient livides dans les darses saumâtres encombrées de moules et de jonques pâles. Dans les bassins de Radoub pourrissaient des squelettes navals et des chaloupes mortes rongées par les lentilles d'eau. Un torpilleur coulé obstruait de son dos poli comme un lard la passe de Batalov. Deux jeunes hommes tangoutes, nonchalants et purs, chantaient une chanson de neige perchée sur un wagon de la Compagnie internationale du port. Des femmes sartes, vêtues de peau de loire, buvaient du lait de jument dans des gobelets de porcelaine. Des vieillards lolos se lissaient en silence les barbes. Des filles de Nikolaïevsk, le visage peint, les ongles et la pointe des seins fardés, allaient et venaient à travers les groupes et les peuplades, frôlant de leurs robes de soie à cigogne de rudes mâles tibétains ou kalmouks et parfois caressant un bel éphèbe mongol de leurs mains fines et parfumées. Et le cœur impassible, elles offraient aux barbares d'Asie les mêmes corps qu'elles offriraient bientôt aux bolchevistes de Moscou. Des marchands coréens établis devant la maison des quais vendaient des cigarettes, du thé, du savon et des gâteaux de mille. Leurs étalages à deux roues se déplaçaient sur les trottoirs de bitume et eux, petits derrière leur baraque sévère et soignés, la barbiche maigre, criaient amèrement leur camelote avec des voix de martyr. Du quai au steamer Arthur VI, c'était un va-et-vient de barques et de canots pleins de spontanéité. Des bandes d'embarcations nageaient bord à bord, chargées d'ustensiles hétéroclites, d'armes d'abordage, de femmes sibériennes et de ballots de cartes d'état-major. Sur l'une, un petit chien blanc, juché sur des sacs de seigle, aboyait à la défaite. Les marins de l'Arthur VI faisaient le service de liaison avec des vedettes à moteur qui ponctuaient d'explosions et de cuivre jaune le spectacle pittoresque à point. C'étaient des matelots incrédules qui dissimulaient des fioles de tendresse et des flacons de rhum entre leurs poitrines slaves et leurs vareuses de coupe anglaise. Un sampan vermoulu transportait toute une famille tartare, toute luisante d'yeux, de dents et de poux. Sur des radeaux de bois goudronnés passaient des escouades de turcomanes en robe verte, le turban au front et priant Allah à voix haute. Dans un canot laqué se tenaient deux dactylographes de Séménov, bouffis et blondes avec des seins bleus qui ramaient en songeant à l'amour. L'Arthur VI était plein de campements et de chevaux. On jetait pêle-mêle sur le pont des meubles de luxe et des liasses de roubles. Un enfant pleurait dans un coin, goutte à goutte, comme une source. Des hommes de la Sotnia de Lobby avaient envahi les écoutilles et erraient, barbus et le bonnet à gland à la main, à travers les entrepôts lamentables qui puaient l'huile et l'urine de cavale. Parmi cet amoncellement d'hommes et d'objets, de petits matelots japonais allaient et venaient avec une ponctualité d'estampes, correctes et comiques, un peu lunaires, les ongles soignés comme ceux des courtisanes. Le navire encombré de chevaux ne pourrait embarquer toute l'armée. L'ordre arriva de jeter tous les chevaux par-dessus bord. Aussitôt, une douzaine de sakhalinois, à grands coups de coutelas, se mirent à trancher les licoles et l'épée dans les croupes, on poussa les bêtes à la mer. Elles hennissaient et ruaient, cabrées contre les lisses et se mordant réciproquement les naseaux. Puis, une à une, elles tombaient à l'eau, nageaient quelques instants. D'autres sautaient sur elles en des accouplements monstrueux, d'autres encore. Puis, dans le grouillement de jambes, de poitrailles et d'encolures, on jeta quelques grenades à main et l'océan Pacifique avala toute cette cavalerie comme une poignée de noisettes. Ludmila avait mis pied à terre. Elle parlait familièrement à ses soldats ostiaques en leur pinçant les oreilles jaunes de crasse. Elle écoutait derrière Nikolaïevsk se rapprocher le canon bolchevique. Des lettonnes naines passaient en courant et jetaient à grands gestes leurs enfants rouges dans les barques. Un antique chariot mongol traîné par 11 paires de taureaux s'avançait le long de la jetée, surchargé de coffres à grains, de pistolets et de femmes laides. Des campements tungus et samoyèdes corrompaient l'atmosphère. Deux vieux yatoukins grillaient un agneau sur un feu de houille et la fumée grasse de la victime montait dans un ciel sale. De hautes grues se dressaient comme des potences sur le port pour pendre les navires en état de péché. Un instant, Ludmila s'assit sur une caisse de confiture. Elle se sentit lasse et le front penché sur le cœur, elle songea à sa vie. Un attendrissement lui vint, comme une neige qui désire fondre. Elle se leva et elle marcha le long des docks encombrés de cotonnades et de charbon de Cardiff. Un besoin de silence et de solitude lui torturait l'estomac comme une faim. Ses yeux affaiblis lui montrèrent au-delà de la visibilité des plaines de neige slave où jouaient harmonieusement des zibelines vierges. Plus loin encore, il y avait un pôle glacé où des ours blancs traçaient des cercles de géographie. Elle marchait maintenant sur une avenue déserte plantée d'arbres froids. Un chameau triste traînait sur ses rails en perspective une rame de tramway. D'une maison en briques sortit un enfant atteint de jaunisse qui se mouchait fragilement dans une étoffe de pourpre. Un chien jappa près d'un cadavre de jeune fille tartare. Ludmila se rappelait avec crudité les deux jeunes hommes qui, dans l'escarmouche de Cracovitsa, brisèrent mélancoliquement leurs épées devant elle en criant « Elle est trop belle !» Elle revint sur le port. Un petit télégraphiste bleu l'attendait. Il fit avec séduction le salut militaire et lui remit de tendres dépêches. Semenov télégraphiait qu'il se faisait la barbe. Constance Krutanska, dactylographe major, venait de tuer de 6 coups de Browning son amant Kaliapine, suspect de bolchevisme et d'infidélité. Anne Sternov, capitaine des gardes mandchous, était dans son tube. Maintenant, voici Semenov en personne, l'ancien aide de camp de Koltchak, l'ex-roi de Mongolie, le vaincu de la Stambulaska, était beau et pâle sur son cheval bai. Il déboucha de la rue Boronevitch à la tête de sa garde mongole en tenue noire et or, le bonnet de martre sur la tête en culotte canarie, une badine bleue à la main. Il caracolait devant les soldats somptueux et sombres. Il descendit de cheval. Il boitait légèrement à cause d'une chaude pisse, contractée l'avant-veille au contact d'une grande dame de Nikolaïevsk. Il salua Ludmilla en lui baisant galamment l'extrémité des doigts. Il fumait la courte pipe mongole en bois de mélèze. Son beau visage était susceptible de commander, sinon des victoires militaires, du moins des chutes de cœur. Ses lèvres charnues gardaient dans leur courbure l'empreinte des bouches de femmes. Il riait comme un barbare. Ludmila, troublée, regardait en silence le beau mâle à l'épaisse poitrine. Des ordres et des médailles constellaient son dolman ornemental. À ses talons brillaient des éperons d'or. De nouveau, le télégraphiste bleu apporta une dépêche. L'ataman éventra le papier avec ses gros doigts, puis il regarda tendrement le télégraphiste adolescent et soudain, le saisissant par les oreilles, il le jucha en travers de son propre cheval. Il s'approcha de Ludmila. « Ces salauds sont dans la rue Boukharine !» gueula-t-il.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Sur le fleuve Amour, Joseph Delteil. Les clairons de la garde mongole sonnaient le rassemblement. ces petits clairons rauques embouchés par des hommes malsains à l'extrémité de l'Asie, dans l'ambiance d'un port de guerre et de pêche, jetaient sur les quais et sur l'eau trouble des darses des sonorités aigres et tristes, issues du fond d'une race obscure. Ludmila ralliait ses ostiaques. Déjà Semenov était remonté à cheval. Les Mongols lui ouvrirent un passage en égorgeant quelques femmes et quelques bœufs. Un grand vieillard corpulent récitait des malédictions en dialecte mandchou du haut d'un char plein de moutons. En passant, un Mongol lui planta son épée dans la bouche. On entendait pleurer un enfant quelque part. Semenov galopait. Et penché sur le télégraphiste bleu, il humait sensuellement dans la nuque du tendre garçon une androgyne volupté. Il sauta dans la barque à cheval et les Mongols, taciturnes, sautant après lui, s'agençaient des coins propices entre les sabots des bêtes, sous le ventre et sous le poitrail. Ludmila embarqua la dernière. Il ne restait sur les quais que des groupes d'impotents qui chantaient des cantiques slaves, des troupeaux de porcs et de vaches, et ça et là, quelques femmes en couche ou à l'agonie. Le canot s'éloignait à force de rames. Là-bas, peu à peu, Nikolaïevsk s'emplissait de murmures très doux. Une brise soufflait du nord, chargée de parfums ravis à la peau des hermines et à la robe des icebergs. Soudain, de la rue Boukharine, les bolchevistes débouchèrent sur les quais. C'était un détachement de chasseurs du Kouban, en dolman rose. À leur tête galopaient deux délicats jeunes hommes sans poils et sans reproches. Ils s'arrêtèrent devant l'océan. Les dolmans des chasseurs embaumaient suavement l'atmosphère. Une multitude de sampans et de jonques sommeillait sur la tendre poitrine de la rade. Le soleil se couchait derrière l'île Sakhaline. Le canot de Ludmila nageait sur une onde pâle, éveillant autour de lui les glauques sensualités de la mer qui rôde languissamment au flanc des cargos et à la hanche des chaloupes. Sur le quai, les deux jeunes officiers à cheval devant l'océan Pacifique ouvrirent leurs lorgnettes décoratives et, inépuisablement gonflant leurs poumons en défaillance, ils regardèrent s'éloigner là-bas, droite à la poupe du canot, Ludmila Androff. Histoire de Ludmila. Elle est née au bord de l'amour, dans une cabane jaune, un soir. Le village est tout empli d'un bêlement de moutons. Chaque maison parfume ses poutres d'une odeur de cuisine grasse. Le fleuve, bordé d'arbres blancs, charrie un limon très tendre. Les renards bleus ont franchi la muraille. Une neige calme tombe sur la Sibérie. Elle est née sur une natte de poils de chèvre qui lui inflige la première piqûre de la vie. Pas de médecin ni de vieille femme diplômée. Le père est en forêt pour la saison du boulot. Seul le frère aîné, Tserzef, 5 ans, aide à la délivrance. Il porte dans ses mains le bol de faïence plein de miel de l'Altaï et, à petit coup gauche, il en badigeonne les lèvres de Ludmila. Parfois, si la mère s'arrête un instant de gémir, il lèche ses doigts dorés. On n'entend dehors que l'aboi du chien Xour contre la lune nouvelle. Elle a grandi près de l'eau, ou plutôt c'est le fleuve qui s'est amenuisé jusqu'à elle. D'abord, c'était une vaste étendue d'eau de haute taille, pâle et farouche, gardée par des arbres en armes. Puis Ludmila l'a vu diminuer jour à jour de largeur et de sévérité, se proportionner à elle-même, sourire à travers ses glaces ou, l'été, fleurir pour elle. Et un jour, elle a osé. Elle l'a pris dans ses bras et elle a joué avec. À partir de ce jour, elle s'est sentie une âme héroïque. Ses petites veines se sont gonflées de grandes audaces. Une fois, elle a tiré la queue de Xour. Plus tard, à l'heure où le père arrive de la pêche, elle a tué à coups de couteau un gros poisson interlope. Plus tard encore, elle a trompé son grand frère Tserzef à force de caresses et lui a brusquement, par trahison, planté ses ongles dans la joue. Tserzef a pleuré, le visage en sang et en larmes. Et Ludmila a senti une volonté et une volupté étranges lui emplir de force sa maigre poitrine. C'est qu'elle a déjà 6 ans. C'est l'âge où l'on coupe les cheveux des petites filles de l'amour pour les offrir sur l'autel de Tchissa. Un matin, la mère a pris Ludmila sur ses genoux, lui a donné un gâteau de miel et tss, tss, en 2 coups de ciseaux, elle a tranché toute la chevelure. Ludmila, scandalisée, a trépigné, arrosé de pleurs son gâteau de miel. Soudain, elle a dérobé les beaux ciseaux en acier de Baltimore, s'est approchée en souriant du chat Litvov et lui a coupé la queue. Suave vengeance. Parfois, elle accompagne la mère dans un champ de seigle ou de topinambour. Elle s'assied sur une motte de terre, casse un épi vert et le suce longtemps. Cela a un goût équivoque de lait et de cendre. Et peut-être de puberté. Un jour, de sous la motte de terre est sortie une petite couleuvre des marais. Elle est si jolie, comme l'écaille, avec des mordorures sur sa tête pâle et des taches violettes le long du corps. Mais Ludmila devine que c'est une bête vilaine. Elle la saisit par le cou entre ses doigts potelés, fronce les sourcils devant ses contorsions et l'étouffe en lui criant de grosses injures. Puis, morte, elle se reprend à admirer les teintes esthétiques et drues de son ventre. Elle l'enroule autour de son mince poignet et va montrer le butin à sa mère. Et la mère baise Ludmila sur les yeux en pâlissant. Depuis qu'elle sait lire, Ludmila a un grand livre russe avec des images nationales. Elle épelle les dates et les tsars, et toutes les batailles sortent une à une parées d'uniformes d'or de ses lèvres roses. Elle s'éprend de celle que livra un jeune général au bord d'un fleuve au nom euphonique. Mais celle qui se déroule sans stratégie dans une ingrate plaine, Ludmila les bannit de sa mémoire. Elle est de connivence avec les circonstances atmosphériques propices, mais condamne avec indignation les hivers inexacts. Les tsarévitches, surtout, ont toute sa sollicitude. Elle les imagine dans le palais des perspectives, vêtues de soie rose avec des ganses solitaires, pâles et le front blanc. Et une grande duchesse bleue avec de longues mains exsangues caresse leurs beaux cheveux d'un geste inépuisable. Pendant qu'elle feuillette le livre militaire, le père dans la cour fabrique l'eau-de-vie de seigle. Les grains germés ont la teinte des cadavres verdâtres. La masse bout dans un récipient de cuivre pensu et, par une jolie tubulure rose, coule goutte à goutte un élixir blond. Ludmila s'approche et considère le mystère de la transmutation. Elle a souvenance des marchands caducs qui colportent l'hiver des flacons d'alcool pâle dans des besaces de peau. Elle songe aux prescriptions médicales du vieillard. La liqueur est là, d'un or molle qui remue comme les épis mûrs. Le père sort à la recherche de bois propice à l'ébullition vite. Ludmila prend le gobelet d'étain en forme de coin, l'emplit d'eau de vie et boit d'un seul trait. Elle sent aussitôt son cœur grandir sans limite et battre comme une bête indomptée. 2 personnages de luxe passent devant ses yeux avec des ornements de mufles et de cornes. Puis elle tombe sur la terre mêlée de cendres et s'endort sur le gobelet vide. Elle se souviendra longtemps de cela, du goût vorace, de cette eau blonde issue du seigle domestique et du cortège de dames et de fleurs qu'elle rencontra dans son sommeil et de la chaleur de son ventre plein de feu comme une forge. Elle se souviendra aussi de ce pêcheur mongol qui l'a recueilli dans ses filets, loin, sur le fleuve Amour. Ludmila a maintenant 8 ans. La mère, le soir, conte de belles histoires tout en battant le lait de jument. Une fois, un prince de 8 ans, conseillé par une cigogne, se révolta contre les meurtriers de son père, tua de sa main le mauvais chef persan et régna longtemps sur son peuple avec prestige et modération. Ludmila tressaille, car son cœur est sensible aux événements du monde. Ce soir-là, il dort par secousses. Parfois, elle s'éveille toute chaude, croyant sentir à côté d'elle, dans le lit, le jeune prince qui l'embrasse passionnément. Au matin, elle se lève tôt. Le père et la mère sont dans la forêt. Tserzef chasse la taupe dans les terres labourables. Elle est seule, avec le jeune prince ou avec le général Mazepa. Elle se sent un besoin immense d'aventure et d'héroïsme. Elle détache la barque de pêche, saute dedans et remue les longues rames. Elles sont lourdes comme un destin. Déjà le fleuve l'a prise, la barque descend. Alors Ludmila devine autour d'elle, au-dessous d'elle, des forces mobiles et glauques. Elle abandonne les rames inutiles, elle se penche par-dessus bord. L'eau est là, de cette couleur grave et pâle qu'empruntent les visages des jeunes mariés devant les mères vêtues d'écharpes tricolores. C'est le fleuve Amour. La barque s'éloigne peu à peu de la rive. Aucun poisson, aucun pont. Parfois, des plantes d'eau émergent, longues tiges de gélatine vides de chlorophylle. De ses maigres mains, Ludmila s'y agrippe. Elle se rompt sans consistance. Maintenant, Ludmila pleure doucement. Le soleil a grandi et peint le fleuve Amour en couleurs dures, ocre, grès étrusque, azotate de plomb. On entend derrière les planches le frôlement mou de l'eau. Un silence mortel a envahi la Sibérie. Ludmila crie et hurle sans parvenir à mettre le silence en déroute. Puis elle se calme, car la nature n'a pas des trésors de force à la disposition des enfants prodigues de manifestations déclamatoires ou lacrymatoires. Le temps passe. Et je crains bien que maintenant Ludmila ne dorme, insouciante du temps et de l'espace, au fond de la barque solitaire. Soudain, elle perçoit un choc dans la région des oreilles. La barque chavire, empêtrée dans un vaste filet à jalons de liège. Sur le rivage, un homme, quadrangulaire, la face jaune et sans poils, coiffé d'un parasol en feutre de lapine, essaie les grands gestes dramatiques qu'il fera au jour du jugement dernier. Ludmila a chu au beau milieu du filet, parmi les poissons. Elle les sent qui lui frôlent la chair avec une molle continuité qui se coule entre ses jambes, qui lui cure les oreilles, qui lui lèche les joues et les organes de la génération. Il y en a de longs et fourbes, avec des ouïes équivoques en forme de ventouse, d'autres épais, avec d'informes nageoires dorsales, indignes de l'époque quaternelle, d'autres encore, fins et goulus qui s'insinuent à travers les cheveux, d'autres encore, ils sont la multitude une et indivisible, avec des ventres sans nombre. Et de la rive, adouci et souriant, le grand pêcheur mongol, à pleine corde, ramène lentement à lui le filet.
Voilà donc pour ce soir cette première lecture du roman de Joseph Delteil sur le fleuve Amour. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.